Merci d'écouter RFI, bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Il est 9h à Port-au-Prince, 13h en temps universel. RFI midi, suite et fin sur le continent américain jusqu'à 13h30, temps universel. Nous appellerons tout à l'heure notre envoyé spécial en Haïti dans la ville de Cap-Haïtien. Il a rencontré des habitants de la capitale tout juste échappés de Port-au-Prince et de la violence des gangs. On parlera aussi avec notre invité de ce procès historique aux États-Unis, un ancien président au pénal. Donald Trump, lui, contre-attaque avec son discours favori, celui de victime d'un complot politique. Et puis comme chaque jour, l'actualité des Outre-mer, Benoît Ferrand, vous nous parlerez tout à l'heure de la réhabilitation du Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre.
En Guadeloupe, sous la houlette de la communauté d'agglomération Cap Excellence, un peu plus de 16 millions d'euros vont permettre à la célèbre salle de spectacle de ressusciter.
Merci Benoît Ferrand, on vous retrouve tout à l'heure dans une vingtaine de minutes.
RFI Midi.
Mais avant cela, les informations des dernières heures avec Diane Berger. Bonjour Diane.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Donald Trump est en route pour le tribunal.
À New York, c'est le début du premier des quatre procès au pénal de l'ancien président américain. Il comparaît dans l'affaire Stormy Daniels, du nom de cette actrice de film porno qui affirme avoir eu une liaison avec lui. Donald Trump est accusé d'avoir maquillé les comptes de campagne de 2016 pour cacher un paiement de 130 000 dollars effectué pour acheter le silence de l'actrice. Et nous retrouvons en direct des États-Unis notre envoyé spécial permanent Guillaume Nedin. Bonjour Guillaume.
Bonjour Diane, bonjour à toutes et à tous.
Guillaume, vous êtes devant le tribunal, quelle est l'ambiance ?
Écoutez, ça commence à se remplir un petit peu devant le tribunal. C'était assez calme depuis ce matin, mais il faut dire que le procès ne doit commencer officiellement que dans une demi-heure. Il y a quelques manifestants de chaque camp, du camp de Donald Trump, qui sont assez visibles, assez présents pour nous expliquer aux médias qui sont présents ici en masse que Donald Trump n'a rien fait de mal, qu'il s'agit d'une escroquerie, que ce procès tient de l'interférence électorale. C'est un petit peu la même population qui était là. D'ailleurs, on reconnaît vraiment quelques personnes qui étaient là lors de son inculpation il y a tout juste un peu plus d'un an. Et puis de l'autre côté, quelques manifestants anti-Trump qui viennent exprimer leur joie que l'ancien président ne soit enfin traduit en justice. Le procès doit commencer dans une petite demi-heure. Avec la sélection du jury, ça pourrait être un petit peu long parce qu'il faut trouver des jurés neutres, une douzaine de jurés neutres. Et étant donné la personnalité de l'accusé, Donald Trump, qui est quand même très connu et très clivant, ça sera peut-être un petit peu compliqué. Et c'est la stratégie du camp Trump de faire durer les choses pour que les choses traînent le plus possible, que les procès n'aient pas lieu avant l'élection présidentielle qu'il espère remporter, pour éventuellement s'auto-amnistier.
Merci beaucoup Guillaume Nedin en direct de New York pour parler de ce procès de Donald Trump. L'ancien président américain qui, on vient de l'apprendre, est arrivé donc au tribunal de New York.
Une nouvelle réunion du cabinet de guerre se profile en Israël après l'attaque menée par l'Iran le week-end dernier.
De Washington jusqu'au Kremlin, en passant par l'Union européenne, de nombreuses voix appellent au calme. Il ne faut surtout pas d'escalade des tensions. Hier, une première réunion du cabinet de guerre s'est soldée sans décision ferme pour l'instant, Michel Paul.
Aucune décision n'a été rendue publique à l'issue du débat. On peut parler d'une profonde division au sein même du cabinet de sécurité israélien. Les ministres de l'extrême droite poussent à une riposte d'envergure sur le territoire iranien. Le ministre de la Défense, Yoav Gallant, est l'aile plus modérée du gouvernement, propose une sorte d'alliance stratégique régionale contre l'Iran. Alors il s'avère qu'une riposte israélienne immédiate au moment de l'attaque iranienne a été annulée au dernier moment, après une conversation téléphonique entre le président américain Joe Biden et le premier ministre Benjamin Netanyahu. À ce stade, il semble qu'Israël ait donc décidé de temporiser, en grande partie en raison des faibles dégâts causés par les missiles iraniens et surtout du fait que les Américains ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à une telle offensive. Signe révélateur, Israël annonce la levée des restrictions de la défense passive sur les rassemblements et sur les activités scolaires, mais dans le même temps annonce la mobilisation de 2 brigades de réservistes pour des opérations à Gaza. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
Des opérations à Gaza qui ont continué. En effet, l'armée israélienne a mené une dizaine de frappes aujourd'hui sur donc la bande de Gaza, en particulier dans le secteur de Ran Younes. Dans la région, toujours, le Hezbollah libanais annonce avoir activé des engins explosifs sur le passage de soldats israéliens qui auraient franchi la frontière. L'armée israélienne répond quant à elle que 4 de ses soldats ont effectivement été blessés, mais elle ne confirme pas que ces hommes ont donc franchi la frontière. Une autre guerre, moins médiatisée, au Soudan. Au moins 6 personnes ont été tuées aujourd'hui au Darfour, plusieurs dizaines d'autres blessées. Un an pile après le début du conflit entre l'armée officielle et les paramilitaires des forces de soutien rapide. Par ailleurs, une conférence humanitaire dédiée a lieu en ce moment même à Paris, qui réunit donateurs et pays voisins. Plus de 840 millions d'euros d'aide ont déjà été promis.
En Haïti, en l'espace d'un mois, près de 100 000 habitants ont quitté la métropole de Port-au-Prince.
Chiffre de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. La violence des groupes armés qui sévissent dans la capitale pousse toujours plus de déplacés sur les routes et ceux qui le peuvent prennent de plus en plus souvent une décision radicale. Quitter Haïti, fuir le chaos et rejoindre les États-Unis. Reportage à l'aéroport de Cap-Haïtien de nos envoyés spéciaux Vincent Souriau et Boris Vichy.
Oh, j'avais eu très peur. Sur toute la route.
À quelques heures du départ, ce jeune homme de 23 ans est encore choqué. Petit à petit, il réalise le risque qu'il a pris. Quitter Port-au-Prince avec sa petite sœur pour rejoindre Cap-Haïtien, alors que les gangs prennent pour cible les civils qui veulent quitter le pays.
Ils vérifient leurs valises. S'ils trouvent des passeports avec des autorisations de voyage, ils vous kidnappent, ils demandent des grosses sommes d'argent inimaginables.
Ensuite, il y a la course aux billets d'avion. Il y a 5 fois plus de demandes qu'en temps normal à l'aéroport de Cap-Haïtien. Les prix explosent et les vols sont pleins, sauf miracle, comme pour cette famille qui se dirige vers New York.
C'était vraiment, vraiment difficile de trouver un vol disponible. On est obligé de rester sur l'Internet disant toute la nuit. Heureusement pour nous, on a trouvé un vol. On n'a pas de choix. Hein.
Pour les autres, minimum 15 jours d'attente. Pour l'instant, les compagnies aériennes n'ont pas l'intention d'augmenter le nombre de rotations vers les États-Unis. Vincent Souriau, Boris Vichit, Cap-Haïtien, RFI.
Un reportage de Vincent Souriau et Boris Vichit.
Et nous retrouverons nos envoyés spéciaux dans quelques minutes. Ils nous raconteront le quotidien dans la deuxième ville d'Haïti. En attendant, direction Washington, pour le début des traditionnelles réunions de printemps entre le FMI et la Banque mondiale.
Et c'est dans ce contexte qu'Oxfam dénonce leur politique d'aide au développement inadaptée, selon l'ONG, aux pays qu'elles sont censées aider. Nathanaël Vitran, Oxfam en veut pour preuve les inégalités de revenus qui restent très élevées, voire qui augmentent carrément dans 60% des pays où interviennent l'une ou l'autre de ces institutions.
À la première lecture de cette analyse, on pourrait penser qu'après tout, il n'est pas très surprenant que les pays au chevet duquel se penchent les docteurs FMI et Banque mondiale soient malades. Mais, comme l'explique Louis-Nicolas Jandot, responsable campagne financement du développement chez Oxfam France, le remède contribue trop souvent à aggraver le mal.
L'immense partie de leur soutien se fait sous forme de prêts et donc participe au surendettement des pays qui sont censés justement aider. Par exemple, dans le cas du Mali, du Niger, du Burkina, ils consacrent plus au remboursement de leurs dettes, y compris à destination du FMI, que à leur budget d'agriculture ou à leur budget de santé.
Alors, que faire ?
On a certaines solutions qui sont assez simples, comme l'annulation d'une partie des dettes des pays surendettés.
L'ONG salue tout de même l'engagement pris l'an dernier par la Banque mondiale de réduire les inégalités en se fixant des objectifs chiffrés, d'une part, et d'autre part en renforçant l'Association internationale de développement, l'outil qui lui permet d'aider sous forme de subvention.
On souhaite interpeller les pays riches afin qu'ils mettent plus d'argent dans ce pot commun pour aider les pays en développement sous forme de subvention.
Oxfam, qui apporte aussi son soutien à la proposition de l'économiste Gabriel Zucman d'une taxe mondiale sur les grandes fortunes, taxe mise à l'agenda du G20 par le Brésil.
Le relais de la flamme olympique commence demain à Olympie et nous venons d'apprendre le nom des 2 premiers relayeurs. Stéphanos Tsouskos, rameur d'aviron grec, sera le premier à saisir la torche à Olympie. Et puis ce sera le tour de l'athlète française Laure Manaudou, la nageuse 3 fois médaillée aux Jeux d'Athènes en 2004. La flamme sera ensuite amenée en France par la mer à bord du Belém, arrivée à Marseille prévue le 8 mai prochain. Il est maintenant 13h09, excusez-moi, en temps universel, l'heure de retrouver Anne Cantner.
Merci Diane Berger. Nous allons continuer à parler de l'actualité du continent américain durant la prochaine demi-heure. Il est 9h09 à Cap-Haïtien.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
On va retrouver nos envoyés spéciaux dans la deuxième ville d'Haïti. Bonjour Vincent Souriau.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes avec Boris Vichit dans cette ville du Nord. On a entendu il y a quelques minutes votre reportage à l'aéroport de Cap-Haïtien. C'est le seul aéroport international qui fonctionne encore dans le pays et où se pressent ceux qui veulent quitter Haïti. Quel est le profil des gens que vous avez rencontrés là-bas ?
Eh bien, sont majoritairement des trentenaires, tristes de partir, mais plus le choix, trop de violence, trop de turbulence, comme il le formulait hier, plus d'avenir à court terme en Haïti, il faut partir. Il y a une forme de résignation pour des jeunes gens qui ont entamé des études, mais qui ne peuvent plus étudier à Port-au-Prince, pour des cadres d'entreprise de Jacmel qui sont confrontés à des bandes armées, qui ont été témoins directs de coups de folie, comme ils le disent. Résignation aussi pour cette femme médecin qui cherchait un vol pour sa mère afin qu'elle puisse passer une retraite paisible aux États-Unis. Dans l'ensemble, vous l'entendez, des familles aisées qui ont les moyens de s'offrir un billet d'avion, qui ont des attaches sur le sol américain, qui bénéficient du programme Biden et qui ont la chance d'aller chercher une vie meilleure à Miami ou à New York parce que Haïti est devenu invivable.
Vous les avez rencontrés à Cap-Haïtien, Vincent, où vous vous trouvez. Est-ce qu'on ressent aussi dans cette ville la crise sécuritaire ?
Eh bien, pas du tout, et je crois que c'est important de le dire, hein, pas de traces visibles ici à Cap-Haïtien de la dégradation sécuritaire qui touche le centre du pays. On peut déambuler en ville sans problème, on peut aborder les Capois dans la rue, on peut leur parler, se rendre dans les commerces, faire un tour, même à pied, en voiture, on ne ressent aucune tension. Bien sûr, les gens sont inquiets, comme tous les Haïtiens, de la situation du pays, mais ils ne subissent pas la violence quotidienne que l'on peut voir ailleurs. La sécurité est sous contrôle et jusqu'ici, la vie suit son cours plus ou moins normalement.
Ce qu'on ressent en revanche, j'imagine, puisque ça c'est plus largement répandu, c'est l'impact de la cherté de la vie et de la crise économique.
Bien sûr, oui, comme partout en Haïti, un sentiment de déchéance sociale, d'abandon de l'État, beaucoup de colère aussi envers les équipes dirigeantes qui se succèdent aux commandes du pays, qu'on accuse ici de laisser prospérer la violence, qu'on dit incapable de remettre le pays sur pied. Et puis, effectivement, le quotidien, les prix qui montent, le carburant, les denrées alimentaires de base, des transports en commun, tout augmente. C'est ce que nous expliquait hier ce petit commerçant dans le centre du Cap, une sorte d'envolée du coût de la vie qui vous asphyxie petit à petit.
Machine. Qui était qu'on paye 25 gourdes à l'heure.
Une course de voiture, d'habitude on la paye 25 gourdes. Maintenant ça coûte 5000 gourdes. Au total 10 000 gourdes aller-retour. C'est complètement exagéré. Un gallon de carburant à la station d'essence coûte 1200 gourdes. Et les chauffeurs dans les transports en commun, comment ils vont vivre ? Comment ils vont faire le plein d'essence ? La situation est vraiment difficile. Les choses sont compliquées.
Vraiment, situation difficile, bagaille compliquée.
Voilà, la vie chère que tous les Capois ont mise en avant, Anne, et puis l'absence de perspective aussi, le chômage, l'emploi qui a disparu ici à Cap-Haïtien comme dans le reste du pays.
Vincent Souriau et Boris Vichit en direct de Cap-Haïtien. On suivra avec vous la situation sur place, Haïti, dont la transition politique piétine toujours. Pourtant, le conseil présidentiel a enfin été créé. Oui, mais voilà, le décret publié par le gouvernement sortant fait débat. Et la presse haïtienne se fait l'écho, Marine Le Bègue, des contestations de la part du conseil présidentiel.
Oui, un véritable coup de tonnerre, peut-on lire dans Gazette Haïti. Les membres du conseil présidentiel de transition se disent profondément choqués, continue le journal. Dans un communiqué, ils accusent le gouvernement haïtien démissionnaire d'avoir apporté des modifications majeures au décret et contestent donc sa validité, rapporte le Nouvelliste. Selon les 9 membres du conseil présidentiel, ces modifications dénaturent le projet. Ils accusent Ariel Henry et ses ministres de n'avoir pas respecté leurs engagements, souligne Gazette Haïti, et de n'avoir pas publié ni même mentionné l'accord prévoyant la création de ce conseil. Ils appellent donc le gouvernement à se rétracter, titre le journal, et à publier le décret original qu'avait initialement proposé le conseil présidentiel de transition.
Marine Le Bègue, vous restez avec nous, on vous retrouve dans quelques minutes. Mais avant, on va parler du procès de Donald Trump aux États-Unis.
RFI, the world's voices.
Remember, I've been indicted more than Al Capone, the great gangster. I never heard the word indictment, I didn't know. Now, all of a sudden, if I fly over a Democrat state, they call it a blue state, I get subpoenaed.
Voilà qui donne le ton avant l'ouverture d'un nouveau procès de Donald Trump. Hier, en meeting en Pennsylvanie, vous l'entendez, Donald Trump a expliqué « J'ai été davantage inculpé qu'Al Capone, le grand gangster. Aujourd'hui, si je survole un État démocrate qu'ils appellent un État bleu, je me retrouve assigné à comparaître devant un grand jury. C'est horrible. » Honnêtement, c'est horrible ce qu'ils font, ils ruinent le pays. Donald Trump, toujours sur la même ligne donc, avant un procès inédit, le premier devant la justice pénale pour un ancien président des États-Unis. Il est accusé de manipulation financière, d'avoir caché le versement d'argent à une actrice de film pornographique pour qu'elle taise leur liaison. C'était avant l'élection présidentielle de 2016. Et pour parler de ce procès inédit, nous recevons Jérôme Viala-Godefroy. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Alors, jusqu'à présent, Donald Trump a toujours utilisé les procédures judiciaires contre lui comme un outil de campagne. On a déjà un petit indice avec l'extrait qu'on vient d'entendre, mais je vous pose quand même la question. Est-ce qu'on va assister à la même chose cette fois-ci encore ?
Oui, tout à fait. Il va faire en fait de ce procès une sorte de forum pour sa campagne. Il est obligé d'assister au procès, puisque là, il s'agit d'un procès au niveau pénal. Et donc, il va utiliser ces moments quand il va sortir de la cour pour changer un peu le récit et se poser effectivement en victime. Il s'est d'ailleurs comparé non seulement à Al Capone, comme l'a montré votre extrait, mais aussi à Nelson Mandela, à Nalvani, et même de manière indirecte à Jésus-Christ lui-même.
Et ça marche, ce discours, puisque 3 Américains sur 10 croient à cette théorie du complot, au fait, par exemple, que Donald Trump, en fait, a gagné la présidentielle de 2020. Et c'est encore plus marqué chez les Républicains, puisque là, les 2/3 adhèrent à la thèse de l'élection volée. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'elle est autant d'échos aux États-Unis ?
Oui, effectivement, on voit que ça reste très stable depuis 2020 et on a effectivement encore à peu près 30% des Américains qui croient dans cette théorie du complot, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est 70% des Républicains. Donc c'est très partagé vraiment entre les démocrates et les républicains. Alors ça peut s'expliquer de plusieurs manières, notamment il y a un lien entre politique et religion, parce qu'on voit aussi que ces mêmes enquêtes montrent que chez les évangéliques, c'est 6 protestants évangéliques blancs sur 10.
Il en joue d'ailleurs, Donald Trump, il fait vraiment, dans sa lutte contre ce qu'il appelle le « deep state », donc l'état profond, il fait vraiment le pont entre la politique et la religion.
Oui, alors il y a vraiment un lien d'ailleurs qui a été bien documenté entre le complotisme en général et une sorte de nationalisme chrétien blanc qu'il a mis vraiment en avant, sur lequel il s'est beaucoup basé. Et alors c'est sur beaucoup de sujets, ça est non seulement sur l'élection volée, mais sur le sujet des vaccins, du changement climatique… Et donc les évangéliques blancs rationalisent tout ça en comparant Trump à Cyrus, par exemple, un roi perse qui était dépeint comme un instrument utilisé par Dieu pour délivrer le peuple juif. Et on voit que chez les autres croyants, c'est beaucoup moins fort. Ce n'est que chez 24% des catholiques hispaniques, par exemple, et 11% des protestants noirs. Donc là, on parle bien des évangéliques blancs, protestants et évangéliques. Donc
il y a un écho dans cette catégorie de population-là, mais ça n'est pas tout. Donald Trump n'est pas du tout le seul à porter ce discours. Il a derrière lui des personnalités donc religieuses, on l'a dit, mais aussi politiques. Il a des donateurs, des avocats, des médias conservateurs. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'aujourd'hui encore, autant de personnes endossent ce discours et alimentent en fait cette sorte de bulle où la réalité est accessoire ?
Alors il y a du côté des médias un intérêt vraiment financier aussi. On le voit notamment chez Fox News, ça apporte beaucoup d'audience. C'est aussi le cas d'ailleurs des réseaux sociaux. Et on voit que encore une fois, 92% de ceux qui font confiance, par exemple, aux journaux d'extrême droite et plus des 2/3 qui regardent Fox News ont des théories complotistes et notamment concernant l'élection. Et d'un autre côté, on a effectivement des grandes organisations de droite très puissantes et bien financées, comme par exemple la Heritage Foundation, qui depuis très longtemps utilise le doute et la peur de la fraude électorale comme prétexte pour supprimer des électeurs sur les listes, par exemple. Et on voit qu'ils sont effectivement très, très bien financés. Et donc, il y a une sorte de convergence entre ce qui se passe au niveau de Donald Trump lui-même, de ce qu'il croit depuis longtemps qu'il est une victime, et d'intérêts financiers plus importants.
Alors ça, c'est un discours qui fonctionne auprès de sa base, de son socle électoral et de ses soutiens. Mais est-ce que le message peut toucher aussi d'autres électeurs, et notamment ceux dont Donald Trump va avoir besoin pour gagner en novembre, donc des républicains modérés ou des indépendants ?
Alors malheureusement, les républicains modérés, il n'y en a plus beaucoup, en tout cas qui sont dans le parti, on va dire, notamment au niveau des élus. Mais effectivement, ça va lui poser un problème au niveau des indépendants et des gens, les indépendants d'ailleurs, qui sont de plus en plus une catégorie de plus en plus importante et qui n'adhèrent pas. Et on l'a vu notamment aux élections dans les élections de 2022, où de nombreux candidats qui étaient dans des états clés qui peuvent passer de républicains à démocrates ont perdu les élections de tous ces candidats qui ont adhéré aux théories du complot, notamment concernant les élections. Ils ont une majorité d'entre eux a perdu les élections. élections, en fait.
Et alors, de quelle manière est-ce que ce discours, avec les conséquences que vous mentionnez, peut s'articuler avec tout le calendrier judiciaire et ce procès qui commence aujourd'hui ?
Alors, le calendrier judiciaire va lui servir de preuve quelque part qu'il y a une sorte de complot. Et puis, surtout, s'il n'est pas condamné d'ici là ou que, si, par exemple, il n'était pas condamné dans le procès qui commence là, ça augmenterait effectivement son pouvoir de dire, ben voilà, vous voyez, ça, la preuve que on m'en veut, que c'est une chasse aux sorcières. Plus il est poursuivi et plus il dit, c'est pas possible que quelqu'un soit poursuivi comme ça. Si ce n'est pas parce qu'il se bat pour vous, mon peuple, pour vous, le peuple américain.
Donc ça alimente son discours victimaire. Merci beaucoup Jérôme Viala-Godefroy d'avoir été en ligne avec nous. Je rappelle que vous êtes chargé de cours à Sciences Po Saint-Germain-en-Laye. Ce procès, il doit commencer là dans quelques minutes. Donald Trump est arrivé au tribunal à New York et pour la première fois donc, un jury de civils va décider du sort d'un ancien président jugé au pénal. Marine Lebec, vous avez trouvé dans la presse un article du Washington Post sur ce point particulier qui est la composition du jury.
Oui, le journal liste les critères. Il faut être un citoyen de 18 ans ou plus, vivre à Manhattan, parler anglais et n'avoir aucune condamnation pour crime. Le Washington Post a interrogé 12 personnes dans les rues de Manhattan où l'ancien président avait récolté seulement 12% des votes en 2020. Et il leur a demandé comment est-ce qu'il jugerait Donald Trump. Certains se sont éloignés en entendant le nom de Donald Trump, d'autres ont dit qu'ils le détestaient, quelques-uns ont dit qu'ils l'aimaient, écrit le journal, mais la plupart ont affirmé que s'ils avaient été sélectionnés pour être jurés à ce procès, ils auraient tenté de rester le plus impartial possible, même si, selon un New-Yorkais qui s'est confié au journal, il est difficile d'être objectif à 100% concernant Donald Trump.
RFI Midi, Anne Contner.
Alerte à la canicule dans plusieurs pays d'Amérique centrale. La presse, Marine Lebec, revient sur ces chaleurs étouffantes. Ça fait plusieurs semaines que ça dure déjà. Les températures dépassent dans certaines zones les 40 degrés.
Oui, par exemple au Honduras, selon la Prensa, si San Pedro, la capitale économique du pays, est généralement habituée aux températures élevées, ces temps-ci, peut-on lire dans le journal, la ville est comparable non pas aux portes de l'enfer, mais à ses chaudières. Ces températures extrêmes, la Prensa les associe directement à la déforestation, où nous décidons de protéger nos forêts, où nous nous dirigeons tout droit vers les chaudières du diable, écrit la Prensa en filant sa métaphore.
La main de l'homme est aussi responsable des incendies au Nicaragua.
Oui, depuis le début de l'année, presque 300 000 hectares de forêt sont partis en fumée dans le pays, s'inquiète la Prensa. La majorité des incendies se déclarent au nord du pays, précise le journal, et ils n'épargnent pas les zones protégées où vivent de nombreuses communautés indigènes. Selon nos confrères, ils sont provoqués par la technique du brûlis, qui consiste à défricher le sol par le feu, mais cette technique ne fait pas partie de la culture indigène. Ces feux sont donc la preuve de l'avancée du grignotage dans les territoires indigènes protégés, alerte la Prensa.
Marine Lebec, votre revue de presse a retrouvé comme toutes nos informations sur internet rfi.fr.
RFI Midi.
Et tout de suite, l'actualité des Outre-mer avec nos confrères de La Première. Bonjour Benoît Ferrand.
Bonjour Anne.
En Guadeloupe, et après plus d'une décennie d'arrêt, le chantier de réhabilitation du Centre des Arts de la Culture de Pointe-à-Pitre va enfin redémarrer.
Sous la houlette de Cap Excellence, autrement dit la communauté d'agglo qui réunit les communes de Pointe-à-Pitre, Les Abîmes et Bémao, un peu plus de 16 millions d'euros vont permettre à la salle de spectacle de ressusciter, comme l'explique Francesca Faithful, présidente de la commission Culture et Patrimoine de la communauté. Elle est au micro de Christelle Martial.
Cap Excellence a envisagé le redémarrage du projet et l'achèvement des travaux de réhabilitation. Donc il y a eu, comme cela se fait, un appel à candidature qui a été lancé pour un marché de conception, réalisation. Le président Jalton, il a toujours fait part de sa volonté de mettre à la disposition des artistes une salle de diffusion en premier lieu. Donc cette salle de 1200 places pour laquelle un appel à candidature a été lancé. Donc là, c'est la phase A. Ensuite, une phase B qui viendrait par la suite, qui permettrait de poursuivre la construction, les équipements, le matériel nécessaire aux activités culturelles. Il y a une enveloppe pour la phase A qui est de 8 950 000 euros à peu près et pour la phase B de 8 500 000 euros à peu près, le même montant. Donc un candidat a été sélectionné par Cap Excellence en octobre 2023. Et l'objectif de Cap Excellence est de démarrer les travaux au quatrième trimestre 2024. Ce serait pour une durée de 18 mois.
Et sachez qu'une fois achevé, le nouveau Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre portera le nom de Maryse Condé. Un tout autre sujet, le marquage CE sur les matériaux de construction, autrement dit la conformité aux normes européennes, ne sera bientôt plus obligatoire dans plusieurs territoires ultramarins, dont la Guadeloupe. La dérogation a été validée la semaine dernière en première lecture par le Parlement européen. Éric Bagassien.
Cette dérogation aux dispositions de l'Europe permettra de faire face à l'augmentation des prix du fret et de l'approvisionnement en matériaux grâce à un régime d'exception. Régime, indique-t-on, qui sera élaboré en 2024 et permettra d'importer des produits de construction de pays tiers et de leurs zones géographiques, mais également de disposer ainsi, toujours selon le communiqué de la préfecture, de disposer de produits adaptés aux caractéristiques des régions concernées. Une évolution du bon sens des normes européennes qui prennent en compte les particularités des régions ultra-périphériques de l'Europe, selon Marie Guévenot, ministre déléguée en charge des DOM. Une disposition adoptée toutefois en première lecture. Il faudra donc attendre la fin du cheminement pour voir si cette mesure est définitivement adoptée et connaître les modalités d'application de cette dérogation.
Éric Bagassien de la Première Guadeloupe, bon après-midi. Anne, à demain.
À demain, Benoît Ferrand. Merci à tous d'être avec nous. De la musique avant de se quitter, la chanteuse argentine La Yegros que l'on entend ici avec Cog. C'est le chanteur ghanéen Cog pour vous accompagner jusqu'à 13h30, temps universel. RFI Midi, c'est terminé pour aujourd'hui. À la réalisation ce lundi, Yann Eligouin, merci à tous d'avoir été avec nous. Vous restez sur notre antenne dans quelques secondes maintenant, de vive voix avec Pascal Paradou. Très bonne journée à tous.
retrouver RFI sur WhatsApp.
Vous pouvez recevoir l'essentiel de l'actualité internationale sur votre application de messagerie et réagir aux informations. Pour vous abonner, rendez-vous sur l'application WhatsApp dans la rubrique Actu. Tapez RFI dans la barre de recherche, demandez à suivre notre chaîne et activez les notifications.
La chaîne WhatsApp de RFI, c'est à retrouver sur votre téléphone mobile.